Est-ce que tu vas voter aux prochaines élections municipales ?
Je vais voter dans ma ville de naissance.
Je vais faire procuration par ma famille.
Je vais voter dans ma ville de naissance parce que j'avoue, je sais pas trop toutes les mesures qu'on doit mettre en place pour pouvoir voter dans sa ville d'études.
Est-ce que t'as regardé un peu ? Tu t'es informé sur les programmes ?
Je vais pas mentir, pas encore, je suis pas hyper au point.
J'ai un peu ce sentiment que faut vraiment s'informer par soi-même et qu'on reçoit pas forcément les informations comme ça facilement.
Mais je vais regarder évidemment avant de voter pour faire un vote raisonné.
Est-ce que tu as une mesure à proposer en tant que jeune justement pour ces municipales ?
Bah, j'ai vu que le budget pour la nourriture du repas à 1€ est passé et ça je pense que c'est très bien et faire en sorte que ce soit bien appliqué.
Je pense que c'est hyper important de se concentrer sur les logements étudiants, il y a toute une politique qui a à mettre en place à ce niveau-là.
Je pense qu'en fait, les politiques ne devraient pas, pour se présenter, être condamnées.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Comme une voix, une émission proposée par les étudiantes et étudiants de l'Université Paris 1 à l'occasion des élections municipales. Au programme ce soir, les jeunes et le vote. Se sentent-ils concernés par ce dernier ? Quelles pratiques du vote les jeunes ont et quels facteurs peuvent l'influencer ? Quelle place prennent-ils dans le paysage politique ? C'est à ces questions que nous tenterons de répondre. Nous en parlons avec nos deux invités, Jade.
Oui, nous recevons Vincent Tibéry, sociologue et professeur d'université à Sciences Po Bordeaux. Il a dirigé l'ouvrage Génération désenchantée, jeunesse et politique à la documentation française en 2021. Et Flora Wally, étudiante à PSL, chargée de plaidoyer pour l'association AGEP, l'association générale des étudiants de Paris.
Voilà, vous avez le programme, on est ensemble en direct jusqu'à 19h. Flora Wally, Vincent Tibéry, bonsoir. Tout d'abord, une première réaction, Vincent Tibéry, face au micro-trottoir que nous venons d'écouter. Hein. Là, on est face à des jeunes qui votent. Oui. Pourtant, ils représentent le corps électoral qui participe le moins aux élections, puisqu'en effet, en 2020, seuls 28% des 18-24 ans ont voté. Mais si on met de côté un peu le caractère exceptionnel des années Covid, en 2014, au premier tour des élections municipales, les 18-24 ans s'étaient abstenus à hauteur de 57%. Donc, est-ce réellement un phénomène propre aux jeunes ?
Alors d'abord, bonsoir pour l'invité. Bonsoir. Merci pour l'invitation. Alors, premier point, il y a plusieurs choses hein, dans votre micro-trottoir. D'abord, il y a quand même quelque chose qui rappelle que les jeunes sont d'abord et avant tout attachés à la ville d'où ils viennent. Et donc, c'est un des drames pour un certain nombre de maires de ces villes universitaires, hein, qui est que vous avez énormément d'étudiants dans ces villes, mais beaucoup d'entre eux restent attachés à leur ville d'origine et pas à leur ville d'études. Et donc, du coup, ça manque quand il s'agit d'aller voter. Ensuite, oui, effectivement, les jeunes ne sont pas forcément les plus assidus dans les urnes, mais il y a plein de raisons pour ça. D'abord, il y a la question effectivement de la campagne. Vous voyez bien que ces campagnes municipales sont relativement peu mobilisatrices pour l'instant. Ensuite, il y a la question du rapport au vote. Alors certains vous diraient que c'est parce que les jeunes ne sont pas encore pleinement des citoyens, ils n'ont pas encore bien compris les choses. Je pense que c'est plus compliqué et c'est surtout que derrière aujourd'hui on est en train de traverser une crise du rapport au vote, c'est-à-dire que voter ça ne suffit plus pour être un citoyen, c'est-à-dire que beaucoup d'entre eux se disent mais voter pour élire ces candidats-là, est-ce que c'est vraiment une bonne chose, est-ce qu'on n'aurait pas d'autres manières de faire de la politique, par exemple en manifestant, en pétitionnant, etc. Mais il n'empêche que si les jeunes ne votent pas, d'autres votent. Et donc, si les jeunes ne votent pas, d'autres se font attendre. Et notamment, quand on regarde dans les grandes villes, eh bien, ça va être les propriétaires, les seniors, les plus riches, qui, eux, par contre, vont voter et du coup, vont plus peser.
Merci beaucoup.
Et pour vous, Flora Wally, pour rappel, vous êtes donc chargée de plaidoyer pour l'association AGEP. Est-ce que vous constatez un certain désintérêt des jeunes sur ces enjeux des municipales ?
Alors sur ces enjeux des municipales, je pense effectivement qu'il y a un problème de mobilisation pour ces municipales précisément, mais pour ce qui concerne la politisation des jeunes, de la jeunesse, des étudiants, je rejoins Monsieur Vincent Tibéry sur le fait que les jeunes ne sont pas moins politisés qu'avant. On constate hein, avec plusieurs mouvements, le climat, le féminisme, la Palestine, tout ça, ça nous a mobilisés grandement. Et pourtant, on est abstentionniste sur la plupart des élections présidentielles et peut-être sur ces municipales, ce qui est un décalage.
Et puis il y a un phénomène aussi qui expliquerait le taux d'abstention, c'est le phénomène de malinscription. Est-ce que c'est une réalité que vous constatez au quotidien ?
Alors, dans le micro-trottoir que vous avez mis, les étudiants, en tout cas les jeunes interrogés, parlent beaucoup de freins pratiques. Donc ces problèmes d'inscription, etc., que j'ai moi-même rencontrés. Et c'est vrai qu'il faudrait guider, aller vers les jeunes. Je ne sais pas si vous connaissez la politique du aller vers, aller dans les campus, expliquer que ces municipales auront des répercussions positives ou négatives sur la vie, sur le quotidien des étudiants. Et c'est sur le quotidien, je pense, qu'on peut jouer un rôle et qu'on peut mobiliser le plus. Donc voilà, faire une politique du aller vers pour faire comprendre aux étudiants que c'est important de voter.
C'est très intéressant parce que comme Vincent Tibéri et vous, Flora Wally, vous mentionnez un peu de cette notion de crise du vote. Donc cette crise du vote, elle peut être expliquée par plusieurs choses, notamment le milieu social, les départements ou bien même les panels d'âge au sein de la jeunesse. Que remarquez-vous en tant que sociologue
Alors, bien sûr, il y a plusieurs facteurs pour expliquer pourquoi certains jeunes et d'autres, certains jeunes votent et d'autres pas. Très clairement, il y a des questions d'origine sociale. Hein. Les enfants de cadres, les enfants de diplômés du supérieur sont plus connectés à la politique que les enfants des milieux populaires, que les enfants des quartiers relégués ou que les jeunes hein, des milieux ruraux. Bien sûr qu'il y a ces effets d'inégalité. À Paris, hein, vous connaissez bien Daniel Gaxi. Donc voilà, c'est effectivement ces logiques de sens qu'on retrouve, de sens caché. CENS qu'on retrouve dans la jeunesse. Mais il faut bien avoir aussi en tête que en fait, c'est aussi quelque chose, ce que je racontais hein, sur ce désenchantement face au vote, ce décentrement face au vote, et pour d'autres participations, ça touche également les parents, voire désormais certains grands-parents. Hein, c'est-à-dire qu'en fait, on assiste aujourd'hui à une forme de grande démission de la part de l'ensemble des citoyens, et particulièrement, ça touche jusqu'au quinquagénaire, hein, pour vous dire les choses très clairement. Et donc, en fait, derrière, ça devrait interroger les responsables politiques sur leur capacité, effectivement, à entraîner de nouveau. Parce que derrière, c'est pas que les gens en général et les jeunes n'ont effectivement, n'en ont rien à faire de la société, bien au contraire. Effectivement, sur les questions de féminisme, d'inégalité sociale, de discrimination, de police, de justice, d'institutions et d'éducation, ils ont énormément de choses à dire et ils sont énormément mobilisés quand on leur demande et quand ils se sentent entendu. Donc là, derrière, on est aujourd'hui dans une situation, ça ressemble vaguement à une espèce de captation de la politique par les plus âgés, et on voit bien ce que ça donne. Les plus âgés, ça vote pas comme les jeunes. Il faut se souvenir qu'au moment des présidentielles, il y avait eu un très fort taux de participation, notamment au premier tour. Jean-Luc Mélenchon était arrivé largement premier, quand chez les seniors, eh bien, c'était Emmanuel Macron.
Et oui, effectivement, tous ces enjeux-là, le féminisme, l'écologie notamment, hein, on avait vu en 2018-2019 des fortes mobilisations de la jeunesse pour l'écologie, avec des marches pour le climat, qui étaient une revendication centrale, qui ont permis notamment pour les Verts de faire une percée record. Est-ce qu'on est toujours dans la même dynamique, le même état d'esprit chez les jeunes en termes d'investissement dans ces sujets politiques qu'en 2020 ?
Alors c'est compliqué parce qu'il y a une forme de désillusion, c'est-à-dire que très clairement aujourd'hui dans la jeunesse il y a une vraie conscientisation de ces enjeux d'environnement, c'est-à-dire que effectivement le réchauffement climatique il n'est pas débattu dans la jeunesse, enfin peut-être dans certaines fractions, il y a encore certaines fractions conservatrices, mais grosso modo il y a clairement une prise de conscience, mais en face effectivement on se dit, ils peuvent se dire et à juste titre que face à cette prise de conscience les responsables politiques ne bougent pas. Et c'est effectivement ça l'enjeu. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander aux jeunes d'être à fond sur ces questions, de lire, de se documenter, de se conscientiser et ne rien faire derrière. Et là, c'est un des enjeux terribles. Ce n'est pas les jeunes le problème, c'est les responsables politiques.
Merci beaucoup Vincent Tibéri. Et maintenant, nous allons parler des réseaux sociaux et des usages par nos politiciens avec Brittany. Bonsoir Brittany.
Bonsoir. Je vais vous parler des tactiques utilisées par les candidats parisiens pour collecter plus de voix auprès des jeunes. Nous allons donc aborder l'un des cas qui a fait le plus de bruit, celui de Sarah Knafo. Sarah Knafo, qui se présente au municipal de Paris, est une candidate du parti d'extrême droite Reconquête, le parti d'Éric Zemmour. À 32 ans, elle projette de rénover totalement la ville de Paris. Elle a bien compris l'influence des réseaux sociaux et des nouvelles technologies. elle semble vouloir s'en servir pour soutenir sa campagne. En effet, ce qu'on peut rappeler est que, d'après le baromètre obtenu par le Cercle des économistes, en 2025, 51% des jeunes Français, entre 18 et 30 ans, s'informent de la politique en consultant les réseaux sociaux. Sarah Knafo n'hésite pas à partager son opinion politique sur les réseaux sociaux. Avec son équipe, elle fait également le choix d'utiliser des visuels plus colorés, ayant un peu plus d'impact et qui pourraient avoir plus de succès auprès des jeunes. Elle partage des vidéos comme celle où nous la voyons dans le métro parisien. Elle fait part de ses idées et de son attachement à la ville de Paris sur des réseaux sociaux comme Instagram et X. En employant ses stratégies, elle essaye de se donner une image plus proche des Parisiens et plus catchy, comme on pourrait dire. Mais en même temps, on peut aussi se demander si ces méthodes d'approche donnent vraiment envie aux plus jeunes électeurs d'adhérer à son parti et à ses idées. Paradoxalement, elle a été accusée de plagier Zohran Mamdani, le nouveau gouverneur démocrate de New York. On peut aborder l'une de ses vidéos promotionnelles conservant le même choix d'endroit, un système de présentation parallèle à celui de Zohran Mamdani, ainsi qu'une typographie similaire. Et ce n'est pas tout. On voit cela aussi dans les affiches et dans les flyers de Sarah Knafo. Ils reprennent les mêmes designs que l'équipe de Zohran Mamdani. Parmi cela, nous pouvons également ajouter l'utilisation de l'IA par Sarah Knafo pour appuyer ses discours dans certaines publications sur la ville de Paris, où on peut voir un Paris envahi par les ordures et les bouchons. Cependant, s'il y a une chose qu'on peut retenir de tout cela, c'est que les politiciens commencent à changer leur manière d'aborder le public. Sarah Knafo a compris l'intérêt des réseaux sociaux et s'en sert pour essayer de gagner plus de votes. Toutes ces nouvelles méthodes inquiètent d'autres politiciens français, car selon eux, il pourrait y avoir une désacralisation de la politique. Ce qui nous amène donc à nous poser cette question: utiliser les réseaux sociaux et le suivi des tendances pour se rapprocher des jeunes risquerait-il de rendre la politique moins sérieuse aux yeux de tous ?
Et justement, avec ce qu'on vient d'entendre, les différents partis qui utilisent les réseaux sociaux pour faire campagne, on peut se demander si, avec la popularisation, l'usage des réseaux sociaux, ces derniers, est-ce qu'ils deviennent un outil clé pour atteindre un électorat ? Et est-ce que ça met en lumière aussi un nouveau mode de diffusion des différentes idées de chaque parti et donc des pratiques nouvelles ? Vincent Tibéri.
Bah, écoutez, effectivement, c'est un outil assez génial quand vous êtes un responsable politique parce que vous pouvez faire ce qu'on appelle du narrowcasting, c'est-à-dire essayer de cibler des segments très particuliers de votre électorat. Donc effectivement, ça peut être super intéressant parce que vous allez appuyer sur les enjeux qui plaisent aux jeunes, vous allez appuyer sur les enjeux qui plaisent aux seniors, aux gens de gauche, de droite, etc. Il y a plein de choses à faire. Mais il faut bien avoir en tête quelque chose que je trouve essentiel, c'est que quelque part, ce que raconte votre chroniqueuse sur Sarah Knafo, c'est un peu prendre les jeunes pour des bises. Parce que de fait, en fait, bien sûr qu'ils connaissent les codes des réseaux sociaux et donc ils ne sont pas dupes de ce que veut faire Sarah Knafo. Et donc, c'est faire comme si elle pouvait gommer le fait qu'elle est d'un certain parti, que le candidat qu'elle a soutenu à la présidentielle avait un certain nombre de positions. Et donc, il faut bien avoir en tête que penser qu'on va effacer tout et qu'on va faire un reset parce que les jeunes auraient un cerveau de poisson rouge, c'est complètement mal comprendre ce que c'est aujourd'hui que la jeunesse. La jeunesse, c'est 80% de bacheliers, c'est 50% de jeunes qui vont fréquenter le supérieur. C'est une génération qui n'a jamais autant diplômé et qui, en plus, est née avec les réseaux sociaux. Et donc, sur les questions d'algorithmes, de bulles de filtre, etc., je suis persuadé que les jeunes sont beaucoup mieux outillés pour lutter contre ce que leur balance leur timeline plutôt que des seniors qui sont seuls sur Facebook et qui pensent que ce que leur envoie Facebook, c'est la réalité. Donc, il faut bien avoir en tête que les jeunes ne sont pas dupes. Et c'est très bien comme ça.
Et d'ailleurs aussi, donc avec l'exemple de Sarah Knafo, on peut voir que ce parti-là voit les réseaux sociaux comme un espace propice à la diffusion des idées de l'extrême droite. Est-ce que selon vous, toujours Vincent Tibéri, est-ce que ça aura un impact sur les résultats des urnes ? Est-ce que vous pensez que les jeunes ils sont réceptifs à ces idées et que peut-être ils pencheront vers un vote un peu, enfin beaucoup plus à droite qu'avant ou qu'au contraire ils les rejettent ?
La jeunesse, c'est pas un bloc, c'est-à-dire qu'il existe effectivement une jeunesse attirée par ces idées-là. Elle est beaucoup plus faible numériquement que dans les générations précédentes. C'est-à-dire que plus une génération est récente, moins elle compte de gens qui peuvent être considérés comme conservateurs sur les questions de genre, conservateurs sur la question d'immigration, conservateurs sur la question LGBT. Il y en a de moins en moins. Maintenant, ces conservateurs, effectivement, déclenchent très souvent un vote pour l'extrême droite, par exemple. Mais il n'empêche que, en fait, je pense qu'une partie de l'histoire, c'est que beaucoup de journalistes, et c'est aussi à vous, hein, collectivement, de réfléchir à ça, beaucoup de journalistes pensent que ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est la politique. Et donc, effectivement, Sarah Knafo, comme Éric Zemmour en son temps, ont parfaitement compris que, parfois, il suffit juste de tenir les réseaux sociaux pour donner l'impression qu'il se passe quelque chose. Je me souviens qu'au moment de la présidentielle de 2022, vous aviez des Zemmouriens qui étaient persuadés qu'il y avait un vote caché, c'était même un hashtag sur X, qu'en fait, Éric Zemmour allait être qualifié pour le second tour. Or, ça n'a pas été le cas, ça a même été quand même une sacrée baffe. Et donc, vous voyez bien aujourd'hui qu'en plus, utiliser X, mais quand on y réfléchit aujourd'hui, c'est un réseau en perte de vitesse qui, même au moment dans les années 2010 où il était fort, c'était à peine 14%, 14% des Français qui étaient sur X. Donc imaginez aujourd'hui ce que c'est. Et effectivement, aujourd'hui sur X, vous avez beaucoup de gens qui relayent Sarah Knafo parce qu'ils sont d'accord avec elle, mais parce que ce réseau, de fait, est devenu un réseau politisé.
Et qu'est-ce que vous constatez, pardon, excusez-moi, Flora Wally, auprès des étudiants, se sent-il représenté, ciblé par les politiques ? Est-ce que c'est un vrai outil, ces réseaux sociaux, pour s'informer, pour être convaincu des idées proposées ?
Alors, donc moi, je suis chargée de mission à l'AGEP, donc l'Association Générale des Étudiants de Paris. Donc, je représente aussi les étudiants. Et pour ce qui s'agit des étudiants, je rejoins totalement ce que Vincent Thierry vient de dire. Nous ne sommes pas dupes. Donc, nous voyons que ce sont des tactiques qui sont faites justement pour nous attirer, nous les jeunes, dans ces idées-là et à regarder ces vidéos. Mais c'est quelque chose qui peut passer uniquement par les algorithmes. Je veux dire, les vidéos de Sarah Knafo, elles ne sont jamais apparues dans mon algorithme TikTok. Donc encore une fois, ce sont des vidéos qui sont destinées, peut-être elle le pense, pour la jeunesse, mais ce n'est qu'une seule partie de la jeunesse, en tout cas, qui reçoit effectivement ces vidéos dans sa For You page. Et en ce sens, je ne pense pas que ça ait un grand impact sur le vote après, surtout qu'un like n'équivaut pas à un vote. Un vote, ça exige de se lever le matin, de s'habiller, de se maquiller et d'aller voter. Et un like, bon, c'est quelques millièmes de seconde, quoi.
Oui, donc les jeunes ne sont pas seulement passifs dans ce paysage politique, hein. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on va voir avec la chronique Portrait d'Enola. Bonsoir Enola.
Bonsoir, oui, alors il y a quelques jours, j'étais à la fac et un étudiant est venu nous voir, mes amis et moi, pour nous poser des questions sur les municipales, si on avait des projets à porter en tant que jeune, parce qu'il se présentait sur une liste électorale. Et je me suis demandé, mais il a quel âge ? Des jeunes comme moi se présentent aux élections ? Alors j'ai fait mes petites recherches et j'ai été hyper surprise. Le plus jeune maire de France avait 18 ans quand il a été élu et c'était en 2020. C'est Hugo Biollet qui est toujours à la tête de la commune de Vinzieux au nord de l'Ardèche. Alors oui, c'est un petit village d'à peu près 550 habitants, mais tout de même, le jeune maire a réussi à ouvrir un établissement de restauration, ce qui crée de la vie dans un village qui était en train de dépérir. Et apparemment, il ne souhaite pas s'arrêter là car il brigue un deuxième mandat. Mais les jeunes candidats ne sont pas présents seulement dans les milieux ruraux. À Paris même, de nombreux jeunes font le choix de s'engager en politique. C'est le cas par exemple d'Ariane Anemoyanis, tête de liste pour Révolution Permanente au municipal du 13e arrondissement. À 27 ans, cette étudiante en droit mène de front son stage et sa campagne électorale. Un rythme intense à l'image de son engagement, car avant même de tenter un mandat, Ariane Anemoyanis était déjà très investie sur le terrain militant, notamment au sein du collectif de jeunesse de Révolution Permanente, Le Point Levé. C'est d'ailleurs cet engagement de longue date, forgé au fil des mobilisations et des luttes, qui l'a conduite aujourd'hui à se présenter aux élections municipales pour défendre un programme anticapitaliste. Son parcours illustre une réalité beaucoup plus large. L'engagement politique ne naît pas par hasard. Le degré de socialisation politique durant l'enfance, l'adolescence, à l'école ou encore dans la vie associative et syndicale joue un rôle essentiel dans l'engagement. Et de nombreux jeunes ne se sentent pas légitimes à s'investir dans la politique. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. En 2025, selon l'Association des jeunes élus en France, les moins de 35 ans ne représentaient encore que 4,7% des maires élus. Un constat qui alimente un nouveau débat. Faut-il, comme pour la parité homme-femme, rendre obligatoire la présence d'au moins un jeune dans chaque conseil municipal ?
C'est très intéressant. D'ailleurs, qu'en pensez-vous, Vincent Tibéri, sur ce nouveau débat ?
Alors, moi, je pense que c'est d'abord, c'est un enjeu qui touche plus largement toutes les minorités mal représentées dans le monde politique. Il faut quand même bien avoir en tête que le profil classique d'un élu, c'est un vieux mâle blanc dominant de plus de 50 ans, quoi. Voilà, il faut être cash de ce point de vue-là. Et donc, effectivement, il manque des ouvriers, il manque des femmes, il manque des racisés, il manque des jeunes. Et donc, effectivement, ça serait nécessaire pour la vie politique que de s'ouvrir de ce point de vue-là. Mais c'est dur d'être un élu, c'est dur de faire carrière dans un parti. Mmh. Et puis en plus, c'est très souvent, mais très chiant. En fait, moi je comprends, j'ai pas mal d'étudiants et surtout d'étudiantes désormais en face de moi, les plus politisées, elles vont pas dans les partis, elles vont dans les assos, parce que dans les assos, on a l'impression d'être utile tout de suite, de réussir tout de suite à faire des choses. Et donc effectivement, aujourd'hui, c'est les partis qui devraient réfléchir à en quoi sont-ils attractifs aujourd'hui pour ces jeunes générations qui ont envie de faire bouger, alors même qu'on est quand même dans des logiques de carrière. Et donc ça, c'est un enjeu, mais majeur, effectivement.
Merci. Et vous, Flora, que pensez-vous un peu de cette place des jeunes, justement ?
Ah oui, oui. C'est okay. Alors, moi je pense que oui, il est nécessaire d'ouvrir la politique aux minorités, notamment aux jeunes, mais je pense qu'il ne faut pas en faire un symbole, en tout cas la politique partisane. Il ne faut pas en faire un symbole parce qu'à côté de ça, il y a d'autres jeunes qui sont tout aussi politisés, mais qui ne sont pas engagés dans des partis et qui ne seront peut-être pas élus au municipal, je sais pas, à l'Assemblée nationale, ouais, etc. Il y a tout ce travail en fait, qu'on invisibilise en mettant sur un piédestal cela. Alors c'est très très bien et franchement, bravo. mais c'est vrai que nous portons une politisation de la jeunesse qui est aussi associative, syndicale et c'est tout aussi important.
Merci beaucoup. Et Vincent Tibéri, est-ce que ça serait lié un peu justement ce phénomène-là ? Est-ce que ça serait lié à une construction sociale dans laquelle les jeunes sont vus comme moins expérimentés et donc dans certains cas décrédibilisés, voire même infantilisés parce qu'ils sont perçus comme trop jeunes ou pas encore aptes à comprendre les enjeux réels ?
Ah ben, et puis c'est quelque chose qui a touché les jeunes, mais depuis très très longtemps. Enfin, il faut se souvenir des discours que les vieux portaient sur les 68ards à l'époque. Mmh. Or, aujourd'hui, les 68ards sont devenus des boomers, et ces boomers tiennent de nouveau le même discours dépréciatif envers les jeunes. Voilà, et c'est toute l'ambiguïté, par exemple, des débats autour d'un Jordan Bardella. On va vous dire, mais Jordan Bardella, qu'a-t-il prouvé ? Est-il formé, etc. Il n'a même pas eu un diplôme d'universitaire, etc. Oui, enfin, le gars, très clairement, il bosse. Et donc, ne pas prendre au sérieux ce qu'il est, ce qu'il fait pour exister, c'est passer complètement à côté de la plaque. Et là, je pense qu'il y a une forme, et c'est assez frappant de dire ça, hein, mais il y a une forme d'agisme, mais agisme à l'envers. C'est-à-dire que les jeunes sont considérés comme incompétents ou un peu trop brouillons, un peu trop remuants. On va leur expliquer la vie et ça va aller mieux. Ben justement, le problème, c'est qu'il y a eu des jeunes comme ça à qui on a expliqué la vie, ben du coup, ils ont démissionné de la politique partisane. Voilà. Et donc, il y a un moment, ben oui, il faut les écouter parce que tout simplement, ils ont des choses à dire. Et surtout, encore une fois, en termes de diplôme, en termes de capacité à comprendre le monde, ils sont largement plus en avance que bien des boomers.
Et concernant le terrain, Flora Wally, avec l'Association Générale des étudiants de Paris, est-ce que vous mettez en place des initiatives pour informer, encourager les jeunes à voter ?
Alors, en ce moment, on fait un gros travail de communication sur ces élections municipales. On essaye de réunir le plus souvent nos associations pour avoir des débats sur ces municipales et essayer en fait de les impliquer. On a tout fait pour que tout le monde s'inscrive déjà sur les listes électorales, ce qui est déjà un grand pas. Et puis, si je Je suis un peu trop loin du micro, ce qui est déjà un grand pas. Et dans la foulée, si je puis me permettre, on a notre premier café citoyen qui aura lieu le 10 mars 2025 en soirée pour discuter de tout ça.
Trop bien. Et c'est quoi les préoccupations des jeunes aujourd'hui? Quels sont les enjeux à l'aune de ces municipales pour eux?
Alors, vaste question. Sur ce sujet, nous avons fait un plaidoyer que nous présentons, que nous avons présenté à LFI aux socialistes. Ce plaidoyer-là, le thème principal, le thème central, en tout cas pour les étudiants, c'est le logement. Le logement, l'encadrement des loyers, la sécurisation des baux. C'est un gros problème en ce moment, surtout qu'on sait tous que le Crous est débordé et qu'il n'y en a pas assez pour tous les étudiants que Paris accueille. Le transport aussi, ce passe imaginaire, beaucoup trop cher, que nous devons payer. Et puis bon, sur la santé mentale qui est... un peu négligé, en tout cas, enfin, je parle en tant qu'étudiante et en tant que représentante des étudiantes, la santé mentale que nous n'avons pas trop retrouvée dans les programmes des différents partis, mais qui reste tout de moins très importante pour nous. Et je pense qu'on est bon.
Et d'ailleurs, à un moment, il me semble, dans votre plaidoyer, vous faites mention aussi de la culture.
Très bien.
Et d'ailleurs, c'est un enjeu très important, vu qu'on va en parler, la culture, c'est un thème qui est parfois survolé. Ça tombe bien, ça nous fait une bonne transition pour la chronique d'Aïdé. Bonsoir Aïdé.
Bonsoir Nour.
Eh bien, on t'écoute. Hein.
Ma grand-mère vit dans un petit village rural et dès qu'on parle des municipales, elle me confie la même inquiétude, l'avenir de la culture dans sa commune, le cinéma indépendant qu'elle adore, le théâtre où elle va depuis des années. Et elle n'a pas tort. À l'approche des municipales de 2026, la culture est presque absente des débats et des programmes. Un silence étonnant quand on sait que ce sont les communes qui portent l'essentiel de la politique culturelle en France. Chaque année, elles investissent près de 8,7 milliards d'euros dans la culture, soit environ 70% du financement public culturel, selon l'Association des maires de France. Contrairement à ce que l'on croit souvent, ce n'est donc pas l'État, mais bien le bloc communal qui finance principalement les bibliothèques, les conservatoires, les festivals, les théâtres municipaux et les cinémas de proximité. Autrement dit, le maire est aujourd'hui le premier acteur de la politique culturelle de son territoire. Et ce, alors même que la compétence culturelle n'est pas obligatoire, elle repose largement sur une volonté politique locale. Alors pourquoi ce sujet est-il si peu mis en avant dans la campagne ? Plusieurs enquêtes le montrent, pour de nombreux élus, la culture est perçue comme un thème électoralement risqué. Elle serait jugée élitiste, secondaire, moins prioritaire que la sécurité, la voirie ou le logement. Et depuis les années 1990, on observe d'ailleurs une baisse continue de la place accordée aux politiques culturelles dans les programmes électoraux, qu'ils soient locaux ou nationaux. Pourtant, l'affaiblissement des politiques culturelles comporte des conséquences bien identifiées, comme la désertification culturelle de certains territoires, mais aussi la perte de liens sociaux, notamment dans les territoires ruraux ou locaux, où les lieux et les événements culturels sont souvent l'un des rares moteurs de sociabilité. Ce constat est renforcé par l'exemple de certaines communes dirigées par le Rassemblement national. Dans ces villes, la politique culturelle est fréquemment réorientée vers les traditions locales et une mise en scène identitaire au détriment du soutien aux associations culturelles, aux syndicats et à la création artistique indépendante. Les municipalités sont pensées comme des vitrines politiques où la communication prime alors sur une politique culturelle structurée et durable. Et face à cette situation, plusieurs acteurs culturels tentent d'interpeller les candidats. Le syndicat des arts et du spectacle dans le service public a lancé récemment un questionnaire pour demander aux listes municipales de se positionner clairement sur leurs engagements en matière de culture, que ce soit concernant le budget, l'accès pour tous, le soutien à la création ou encore la lutte contre la marchandisation. En Occitanie, sur plus de 300 listes contactées, une seule a répondu à ce jour. Un chiffre qui illustre à quel point la culture reste un angle mort du débat politique local. Alors, je repense à ma grand-mère, à ses inquiétudes très simples et finalement très politiques. Car quand la culture disparaît d'une commune, ce n'est pas seulement un budget qu'on supprime, ce sont avant tout des liens sociaux qu'on coupe.
Merci Aïdé, merci beaucoup à nos invités, Vincent Tibéri, sociologue et professeur des universités à Sciences Po Bordeaux, et Flora Wally en studio chargée de plaidoyer
plaidoyer à l'AGEP, l'Association Générale des Étudiants de Paris. Merci à toute l'équipe de l'émission, Enola, Aïdé, Jade, Brittany et Céline à la réalisation. Cette émission est à réécouter sur radiocampus.org et sur toutes les applications de podcast. Dans un instant, on continue à parler des élections municipales dans la matinale de 19h. Restez à l'écoute de Radio Campus Paris.